La silver economy, parce que c'est important d'en parler, la silver economy, c'est d'abord une économie officiellement lancée en France en 2013 et qui représente un gros marché potentiel qui se chiffre en milliards d'euros. C'est donc effectivement une vraie grosse économie. Dans cette économie, l'emploi des personnes âgées, des seniors, effectivement, pourrait peut-être se porter mieux. Et il pourrait se porter mieux avec un véritable enjeu immédiat, c'est que ça crée de la richesse. Mais avant de parler de tout cela, il faut peut-être déterminer ce que sont les seniors. Et vous qui êtes dans cette salle et vous qui nous écoutez ou qui nous écouterez plus tard, vous avez peut-être envie de savoir à quel âge on est senior. Alors c'est ma première question, madame, messieurs, madame Guillemard, à quel âge est-on senior en France ?
Alors je crois qu'on peut pas, enfin, en tant que sociologue, je ne peux pas répondre à cette question. Et je pense que de toute façon, il faut prendre conscience que l'âge n'est plus le bon paramètre pour gérer les populations. Parce que donc il faut passer à une idée dynamique de parcours. On gère les parcours des individus, et c'est vrai pour les entreprises et aussi pour les politiques publiques, mais on ne gère plus les individus par l'âge. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société où les parcours de vie sont devenus flexibles, déstandardisés, et où les individus n'ont plus le même parcours que dans la société industrielle, un parcours identique, standardisé, avec un rythme de vie à 3 temps, formation, travail, retraite. Un seul exemple, vous savez combien la formation aujourd'hui, c'est tout au long de la vie. Ce n'est pas dans les premières années.
Alors, merci pour cette première réponse. Je vais demander évidemment l'avis des autres intervenants. Moi, j'avais trouvé en préparant cette émission, en préparant ce rendez-vous, qu'on pouvait être senior, considéré comme senior à partir de 50 ans. Est-ce que ce critère, ce marqueur est le bon pour vous, messieurs ?
J'ai une autre définition. Je suis très embêté avec le mot senior parce que quand on dit qu'on est senior à 50 ans, on met 40% des Français. Ça ne veut plus rien dire du tout. C'est comme quand on parle des emplois tertiaires. On a 80% des emplois. Le tertiaire, c'est... il y a du quaternaire et du quinternaire. Donc, il faut rediviser tout ça. Pour moi, il y a le senior en entreprise, le senior hors entreprise.
Et ce n'est pas le même.
Ben, ce n'est pas le même. En fait, le senior, c'est grosso modo entre 50 ans, 55 ans plutôt, et 70 ans. Pour commencer la vie, il y a des juniors avant 25 ans. Et ensuite, il y a des actors de 25 ans à 40 ans. Et de 40 à 55 ans, il y a des majors. C'est-à-dire que si on divise les groupes comme cela, ça veut dire quelque chose. Quand on devient senior, c'est-à-dire à partir de 55 ans jusqu'à 70 ans, on voit qu'on est un ancien travailleur qui marche bien ou un jeune retraité qui marche bien. Après, on devient un cador. C'est-à-dire que le cador...
C'est joli comme expression, être des cadors, parce que ça veut tout dire aussi. Être un cador dans la société, c'est...
C'est positif. Le cador, c'est entre 70 et 85 ans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche bien. En général, il n'y a pas de problème de santé. Grosso modo, ça va très bien. Et c'est un cador. Si on l'appelle cador, ça devient positif. Et après, c'est le mentor. Alors, le mentor, c'est au-delà de 85 ans. Le mentor, il ne parle plus tellement... Et c'est un peu la réalité. Et économiquement, le mentor, il ne consomme plus tellement non plus. Donc c'est pour ça que j'ai ces divisions qui permettent d'avoir les différentes tranches. Mais on est d'accord, on n'est pas à 2 ou 5 ans près. Mais c'est une manière de réguler l'ensemble des personnes.
Eh bien, on va voir si les deux autres intervenants à la table, un chef d'entreprise et un économiste, sont d'accord. Est-ce que dans l'entreprise, le marqueur de 50 ans, lui, il est prégnant ? Est-ce qu'on est vraiment senior à partir de 50 ans ?
On peut l'être même avant 50 ans. Pour les entreprises à l'heure actuelle, on va dire que ce qui est rentable, c'est une personne qui a entre 30 et 40 ans. Si autour de la quarantaine, on n'a pas décelé que c'était un réel talent, soit on peut le conserver, parce que quand même, on en aura besoin. Mais en revanche, son évolution professionnelle a de fortes chances d'être un peu entravée. On va aller, ce qu'on appelle les cadres à fort potentiel, on les choisit autour de la trentaine, entre 35 et 40 ans, pour après aller donc au-delà. Donc on pourrait dire que le marqueur senior, on peut le descendre. Mais après, on peut avoir une vision, on va dire, beaucoup plus dynamique, démographique, avec l'allongement de l'espérance de vie, avec logiquement l'allongement le report de la date de départ à la retraite. On devrait évidemment considérer qu'on est senior non pas à 40 ou à 50 ans, mais à 55 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plus de 50 ans en entreprise représentent plus du quart de la population active, 27% de la population active. C'était 12% il y a 20 ans. Hein, donc c'est lié évidemment à l'arrivée au-delà de 50 ans de toutes les générations du baby-boom qui fait qu'on a un gonflement donc en matière de population active des plus de 50 ans et ça va se déplacer évidemment sur les plus de 55 ans dans les prochaines années. Donc la question est de savoir, premièrement, comment améliorer l'employabilité des personnes de plus de 50 ans, d'autre part, de leur permettre d'avoir des vies professionnelles épanouies et qui soient créatrices de richesses pour l'entreprise, pour l'économie. Or, c'est vrai qu'on a une tendance en France, un peu plus qu'ailleurs, de dire qu'un salarié de 50 ans, c'est un coût et non pas forcément un centre de création de richesses. Alors, il y a des études qui indiquent une baisse de la productivité d'à peu près 15 à 20% pour des salariés de plus de 55 ans. C'est évidemment tout ce débat qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est comment enrichir l'activité professionnelle des plus de 50 ans, parce que sinon, on a un problème économique majeur.
On va répondre à ces questions, monsieur. Merci pour votre intervention. J'ai vu Mme Guillemard qui n'était pas, je vais vous redonner la parole, monsieur Dardenne, mais Mme Guillemard n'était pas tout à fait d'accord avec la question de productivité au-delà de 50 ans.
Oui, parce que si on regarde les études sur la productivité, l'évolution de la productivité avec l'âge, elles sont dissonantes sur ce constat et on ne peut pas dire qu'il y ait un constat homogène sur baisse de la productivité avec l'âge.
Donc ça, c'est pas tout à fait sûr.
Je ne voudrais pas qu'on reste sur cette idée que y a une baisse de la productivité. Ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais pu être démontré. Tout dépend finalement de l'investissement qu'on a fait dans le capital humain avant, que ce soit l'individu ou...
Merci madame. Je voudrais que monsieur Dardenne s'exprime également sur le fait que, est-ce qu'à 50 ans, en fin de compte, on est déjà classé comme un senior dans l'entreprise ou est-ce qu'on est encore un peu productif, voire très productif? C'est le débat qu'on vient d'avoir.
Alors, c'est un petit peu l'ensemble en fait qu'on a évoqué. Je pense que le sujet de la seniorité est quelque part aussi un mal français. Il faut quand même regarder les choses en face. Quand on dit senior, on le voit à l'aune de ce qu'on vit, nous, sur notre propre territoire. Mais quand on compare avec nos homologues européens ou au-delà même de l'Europe, on voit que la notion de seniorité est là très différente. Et on a d'ailleurs des surprises et je pense que certainement vous aurez beaucoup de choses à nous apprendre à ce sujet-là. Donc pour reprendre effectivement ce qui a été dit, je pense que aujourd'hui malheureusement la notion de seniorité en France, elle est plutôt encapsulée autour de 45-50 ans, ce qui est quand même assez dramatique, parce qu'effectivement ça formate tout le reste, et y compris les directions de ressources humaines, les présidences, toutes les parties prenantes autour de ce sujet.
Oui, malheureusement.
Et qui est d'ailleurs très paradoxal par rapport à toutes les études qui sortent actuellement sur et le vieillissement de la population et la nécessité d'accompagner quand même ce vieillissement avec toute la richesse que ça procure, et aussi des études tout à fait sérieuses qui ont toutes prouvé que plus on maintenait une personne âgée, une personne en âge, je dirais, en emploi, plus on favorisait l'accès à l'emploi des générations qui suivent. Donc c'est assez fou quand même que nos politiques n'aient pas pris en compte ce phénomène, avec en tout cas un petit peu plus d'ambition que ce qu'on voit aujourd'hui ou ce qui a pu être fait par le passé avec le contrat de génération et son successeur qui a été un flop.
On va parler des politiques et du rôle des politiques nationales dans l'emploi des personnes âgées dans l'entreprise, bien sûr. Mais vous l'avez dit, et c'est un peu ce qui ressort d'ailleurs de ce premier échange, c'est qu'il y a des idées reçues, il y a des marqueurs dans la tête des employés, des salariés, qui ne se sentent pas très très vieux après 50 ans, mais malheureusement dans la tête des DRH, qui eux considèrent qu'au-delà de 50 ans, on est peut-être un peu moins productif. Alors juste là-dessus, est-ce que la France, c'est une particularité, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France, ou est-ce qu'on retrouve ces choses-là ailleurs dans le monde ? Est-ce que ce sont les mêmes marqueurs, madame ?
Non, il y a une... quand on voyage, on constate effectivement, comme mon voisin, qu'il y a des grandes différences. Et la France est ce que j'appelle un pays qui est resté dans la culture de la sortie précoce. C'est-à-dire que c'est un endroit où on a fait beaucoup plus de sorties anticipées qu'ailleurs, beaucoup plus de pré-retraite que chez nos voisins. Et cela a laissé des marqueurs qui, faute des politiques publiques adaptées pour les remettre en cause... ont perduré. Et j'en prendrai juste un exemple pour montrer le caractère permanent de cette culture de la sortie précoce. C'est ce qui se passe autour des ruptures conventionnelles. On constate dans les données que la rupture conventionnelle, il y a un pic à 58 ans, 59 ans. Ça veut dire que cette négociation, et quand on demande aux gens qui sont partis en rupture conventionnelle, c'est plus d'un quart de la population des 58-60 ans qui part en rupture conventionnelle. Et on leur demande pourquoi, s'ils voulaient partir, ils disent non. C'est donc un départ en quelque sorte forcé. Ils n'avaient pas d'autre choix. Et on voit bien que c'est toujours l'idée de la culture de la sortie précoce qui prédomine, l'employeur considérant que le mieux qu'il a à faire avec un senior, c'est de lui proposer une sortie honorable.
Donc ce qui serait bien, si je vous écoute tous d'ailleurs, c'est que les chefs d'entreprise aillent faire un tour à l'étranger et se rendent compte de ce qui se passe ailleurs et revoient un petit peu justement ces fameux marqueurs en disant que dans l'entreprise, les personnes âgées sont une vraie richesse pour elles.
D'une manière générale, j'ai travaillé avec des DRH sur la prospective, je suis prospectiviste, la prospective des minorités en entreprise. La conclusion, enfin le point de départ, c'est n'est pas minoritaire un homme de 25 à 50 ans d'une IMC inférieure à 25. Tout ce qui change de cela est minoritaire. Mais tout, les femmes, les gros, les vieux, les noirs, etc.
C'est
tout est minoritaire.
C'est horrible ce que
donc
vous
on
nous
est,
dites.
Donc on est sur un schéma absolument infernal. C'est pour ça que déjà, en reprenant l'idée d'avoir quatre catégories d'âge dans l'entreprise... Déjà, avec cela, au niveau de la RSE d'entreprise, on aurait des tableaux où on retrouverait ces quatre catégories d'âge. Et mettre à la retraite des gens de 58 ans en rupture conventionnelle, c'est mettre à la retraite des richesses. Donc, on est sur un chemin, mais faux, une erreur fondamentale. Alors, peut-on la changer du jour au lendemain ?
Eh bien, ça tombe bien, ça va faire l'enchaînement avec le thème suivant, qui est les politiques de l'emploi. En tout cas, on voit bien, l'emploi des seniors est à la traîne dans notre pays. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Au moins, le constat est sans appel. Mais pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Pourquoi, chez nous, cet emploi des personnes âgées est en retard ? Monsieur Favel.
Alors, premièrement, il faut voir que c'est très simple. L'âge de départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite, joue un rôle de curseur important. Il y a un effet horizon qui est extrêmement fort. Donc en décidant, en 1982, de mettre à 60 ans l'âge légal, on a évidemment descendu fortement la ligne d'horizon, ce qui fait que tout le monde se cale sur cette ligne d'horizon. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux chefs d'entreprise, quand souhaitez-vous mettre à la retraite vos salariés ? 60 ans reste un âge relativement fréquent. Et quand on demande aux salariés quand ils veulent prendre leur retraite, c'est 60 ans et 6 mois en moyenne. Donc c'est vrai qu'en France, on a un consensus qui dépasse largement la sphère politique pour être un consensus de société qui fait que, de part et d'autre, salariés, entreprises, on est à 60 ans. Quand on a relevé l'âge de la retraite à 62 ans, l'effet ligne d'horizon a très bien fonctionné. On a donc abouti à un relèvement de l'âge effectif de départ à la retraite qui se situe dans le privé au-delà de 61 ans. Alors, c'est pas que d'ailleurs le report de 60 à 62 ans, il y a également la durée de cotisation qui est passée donc à 41 ans et qui va passer à 43 ans pour les générations 73 qui joue également un rôle. Mais on voit que ça a fonctionné. Et d'autre part, si on prend un autre critère qui est le taux donc, d'emploi des 55-64 ans, la France qui était très très en retard, 38% des seniors étaient en activité donc en 2002, ils sont aujourd'hui 48%. Donc on voit que pouvoir public, quand on décide de reporter donc l'âge de départ à la retraite, ça a un effet sur l'employabilité des seniors. Et on pose toujours la question de savoir, mais s'ils sont au chômage, ça ne change rien. Hein, globalement, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation du chômage des plus de 55 ans, qui est liée aussi à un effet générationnel, c'est qu'on a des cohortes extrêmement larges. Il est vrai qu'avec les ruptures conventionnelles, il y a une partie de personnes qui auraient pris leur retraite qui se retrouvent à être, on va dire, à Pôle emploi, surtout qu'il y a eu la suppression de la dispense de recherche donc qui était avant applicable. Néanmoins, le taux d'emploi effectif a progressé fortement en France depuis le report de l'âge légal à 62 ans. Donc, on peut estimer que les pouvoirs publics peuvent influer par ce moyen-là sur le taux d'employabilité.
Vous vouliez réagir ?
Oui, on n'est pas nécessairement fatigué à 58 ans. Oui. C'est un petit peu comme les dates des vacances. Quand on part le 1er août en vacances, le 28 juillet, on est crevé. Si on part le 15 août, c'est le 13 août qu'on est crevé. Donc si on met la retraite à 60 ans, à 59 ans, on est fatigué. Si on la met si on a besoin de, jusqu'à 65 ans de travailler compte tenu de la durée de cotisation, c'est à 64 ans qu'on commencera à être fatigué.
Effectivement.
Ça ne veut pas dire qu'on est inusable.
Oui, bien sûr. Mais je voulais revenir sur des propos que vous avez tenus, monsieur. Ça veut dire qu'il y a un consensus, c'est ce que vous avez dit, il y a un consensus entre, en fin de compte, les employeurs et les salariés sur le fait que, bah, plus ou moins 60 ans, on va faire valoir ses droits à la retraite ou on va faire partir les gens à la retraite. Alors, monsieur Dardenne, sur le coup, est-ce que on voit bien que les politiques ou la politique peut avoir un enjeu auprès des DRH, mais auprès des salariés, comment on peut faire changer cet état d'esprit ? Parce que s'il y a consensus, c'est que les salariés sont d'accord avec.
Oui, enfin, je pense que tout le monde partage aujourd'hui la nécessité de faire évoluer les choses compte tenu au sud de l'évolution de ses perspectives individuelles de vie. On voit bien que chacun est amené à vivre plus longtemps et que pour autant la société va devoir aussi, elle, accompagner ces évolutions-là et ce vieillissement de société. Donc de ce fait, chacun est conscient qu'il va y avoir des efforts à faire parce qu'il y a eu toute une génération qui n'avait pas et n'était pas confrontée à cette situation démographique complètement nouvelle, hein, démographique et économique totalement nouvelle. Donc c'est vrai que je dirais, j'aurais envie d'apporter une petite note d'optimisme, par rapport à ce sujet. On sent quand même qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes par rapport à ce sujet depuis maintenant, je dirais, allez, à peu près 5 ans. Peut-être que j'en profite pour vous donner juste un petit mot sur la singularité d'Expert Connect, à laquelle, entreprise à laquelle j'appartiens. Il y a 11 ans qu'on a lancé l'activité de notre entreprise dédiée à l'accompagnement de la fin de carrière des collaborateurs en entreprise parce que on constatait la déperdition considérable et les problèmes que ça engendrait dans les entreprises quand un sachant qui avait 58, 59, 60, 62 ans quittait l'entreprise. Et évidemment, elle quittait l'entreprise avec une très grosse partie du savoir. Et en même temps, mettant la société finalement dans l'embarras. Et en parallèle de ça, il y avait de plus en plus de personnes arrivant à la retraite qui n'avaient pas du tout envie de s'arrêter ou qui avaient en tout cas une frustration terrible de ne pas avoir pu transmettre tout ça. Donc on s'est dit, c'est incroyable, il faut trouver une solution pour ça. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et on a la prétention de dire qu'autant quand on a commencé à parler de tout ça il y a 11 ans au DRH, ils nous disaient c'est pas notre sujet là, la retraite, la préparation à la retraite, la transition vers la retraite, le transfert de knowledge, tout ça. Notre problème, c'est comment maintenir les quinquas en dynamique. Et on verra ça plus tard. On sait que ça va nous éclater à la figure, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on voit bien quand même que les entreprises, les chefs d'entreprise, les DRH ont quand même vu comme les dégâts que ça produisait et sont prêts à réagir.
On va venir dans deux secondes d'ailleurs sur le plus que représentent les cheveux gris dans l'entreprise, parce qu'ils sont un vrai plus pour l'entreprise, mais on n'a pas encore dit ce qu'était le plus exact. Hein. Moi, je voudrais savoir en quoi ils sont réellement une richesse pour l'entreprise. Vous me dites toutes et tous que c'est une richesse. Je voudrais savoir laquelle, mais vous allez m'en parler tout à l'heure. Vous vouliez réagir.
Oui, juste une chose, il y a le problème de la masse salariale. C'est-à-dire qu'on est en France dans un système qui fait que plus on est ancien dans une entreprise, plus on coûte cher. Et donc, on a tendance à être viré ou mis à la retraite de manière anticipée pour faire entrer des jeunes. Et là, il y a une réflexion à voir. Comment faire qu'à partir de... Je me reviens à mon chiffre de 55 ans, qui représente un moment dans la vie de l'individu où les enfants ne sont plus à la maison, où la résidence principale est payée, où d'ailleurs on va s'occuper de ses ancêtres, mais où on pourrait gagner moins. Comment ? Peut-être en travaillant moins, etc. C'est-à-dire réussir à baisser la masse salariale des plus de 55 ans pour donner de l'air à l'entrée à des jeunes qui ne commencent pas par des stages ou des CDD à répétition, qui est vraiment une véritable catastrophe pour eux quand ils voudront prendre leur retraite d'ailleurs. Donc ça, c'est un thème d'action.
On en parlera dans ce qui se passera en fin de rendez-vous tout à l'heure. On dira justement ce qui peut arriver dans les années à venir. Et ça, c'est une piste de réflexion intéressante. On voulait revenir sur le plus hein, que peuvent représenter ces générations baby-boomers qui quittent l'entreprise aujourd'hui. Alors, c'est quoi le plus pour les entreprises ?
Ben, je crois que c'est l'expérience. Et l'expérience menée en Finlande est tout à fait éclairante à cet égard. Parce que ça a été le mot d'ordre. La Finlande a fait un plan quinquennal pour l'emploi des plus de 45 ans. Notez que c'est les plus de 45 ans. Donc la deuxième partie de carrière, disons. Entre 1998 et 2003. Et ce plan avait pour mot d'ordre « L'expérience est une richesse nationale ». Et tout était orienté vers les entreprises pour leur permettre de développer des politiques d'emploi, en fait, qui leur permettent de tirer parti de l'expérience des seniors, avec un objectif qui était à la fois de revaloriser les seniors aux yeux des entreprises, c'est-à-dire de stimuler la demande de travail senior des entreprises, en même temps que de stimuler l'offre de travail senior en rendant les fins de carrière et les secondes parties de carrière plus attractives qu'elles n'étaient. Donc, il s'agit de... Et les résultats de ce plan, qui concernait à la fois un effort de formation au niveau public, mais aussi des instruments de mesure, des progrès enregistrés et des retours sur investissement qu'obtenaient les entreprises. C'est-à-dire pour stimuler la demande de travail senior des entreprises, on a mis une batterie de tests à leur disposition qui permettait de savoir si j'améliore les conditions de travail dans tel atelier, en les rendant plus favorables aux seniors, qu'est-ce que j'ai comme retour sur investissement ? Et il est apparu que, dans un certain nombre de cas, c'était un retour multiplié par deux, le retour sur investissement. Donc ça, et après, on fait circuler ces informations. Donc on a appris, en quelque sorte, aux entreprises à mieux gérer les seniors et à mieux tirer parti de cette richesse senior et notamment de cette expérience.
Et surtout, après ce que vous nous dites, c'est aussi valoriser cette fameuse expérience, parce que là, il y a des critères de valorisation qu'on comprend bien au travers de votre exemple. Monsieur l'économiste, est-ce que ça vous parle, parce qu'on parle de cette richesse, mais cette richesse dans l'entreprise, cette expérience qu'ont les plus de 50 ans, même si je sais que je vais me faire tirer les oreilles en disant ça, mais comment est-ce qu'on peut la valoriser réellement dans notre pays ? On voit l'exemple à l'étranger, mais est-ce que chez nous, on pourrait le faire, ça ?
Premièrement, on va être obligé de valoriser. Donc c'est pas une question, c'est qu'il y a une certitude. Il faut savoir que la population active en France va diminuer à partir des années 2030. Or, on aura des charges importantes de retraite à financer. Donc on a intérêt, justement, à améliorer à la fois l'employabilité des seniors et deuxièmement améliorer la productivité du senior et de l'ensemble de la population active, faute de quoi on va avoir des problèmes pour financer les pensions et l'assurance maladie. Donc on doit évidemment aujourd'hui améliorer les conditions de travail des plus de 50 ans et favoriser à ce que le taux d'emploi soit le plus élevé. Alors on voit bien que, et ça a été dit tout à l'heure, la condition sine qua non, c'est la formation. Il faut évidemment changer notre modèle de formation qui aujourd'hui est concentré sur le début de la vie et après ont accès à la formation ceux qui ont des possibilités d'évolution d'entreprise, ceux qui sont plutôt, on va dire, cadre supérieur et un peu moins, on va dire, employé. Et il va falloir évidemment diffuser la formation professionnelle dans toutes les catégories socio-professionnelles et d'autre part prévoir quasiment des cycles de formation durant toute la vie professionnelle. C'est une évidence. Avant, la vie professionnelle, c'était 37 années et demie. Aujourd'hui, c'est 41, ce sera 43 demain. Il y a un allongement avec, en plus, une mutation technologique qu'il y a toujours eu. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et donc, il faut évidemment favoriser, c'est sûr, une formation professionnelle. Avec également l'idée, certainement, que la notion de retraite progressive qui ne fonctionne pas en France, hein, il y a 5000 personnes qui ont pris la retraite progressive, ça fonctionne moins bien que le cumul emploi-retraite, là il y a 500 000 personnes, hein, d'améliorer, on va dire, le passage de l'activité à plein temps à une activité à temps partiel, avec des systèmes qui sont certainement à inventer, hein, des systèmes assurantiels. L'idée qu'en France, on gagne toujours plus d'argent quand on est de plus en plus vieux, c'est bien, il faut peut-être le conserver, mais prévoir peut-être des systèmes d'assurance. Ça peut être les partenaires sociaux qui mettent ça en place pour permettre justement de maintenir une rémunération même si on prend un peu plus de temps. Donc là, il y a de nouvelles formes à inventer de travail.
Je vais revenir vers vous tout à l'heure parce que quand on parlera de l'horizon 2030, je pense que vous aurez plein de choses à nous dire. Mais vos propos ont fait réagir deux de nos invités. Madame Guillemard d'abord.
Oui, c'était plutôt au premier propos de l'intervenant concernant l'effet horizon. Alors, je voulais pointer quand même, à partir de l'expérience finlandaise que j'ai décrite il y a un instant, que la France, pour moi, n'a pas, en repoussant l'âge de la retraite, elle n'a pas vraiment répondu au problème. Pourquoi ? Et parce que l'âge effectif de sortie du marché du travail n'a pas été repoussé dans les mêmes proportions que l'âge d'entrée dans les systèmes de retraite. Absolument. Nous observons en France, et là c'est une caractéristique typiquement française, c'est la décorrélation entre l'âge de sortie définitif du marché du travail et l'âge d'entrée et l'âge de liquidation de la retraite. Il y a seulement 40% de gens qui liquident leur retraite et qui étaient en emploi. Les autres sont en attente. Et ils sont dans le chômage, ils sont dans les minima sociaux, il faut le savoir, parce que la fin de carrière est devenue précaire. Et elle l'est de plus en plus et ça dure longtemps. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Non. Bien sûr que non. Nous voulons repousser l'âge effectif de sortie du marché du travail. Et pour ça, il faut marcher sur ses deux jambes. Nous avons fait des réformes des retraites qui ont porté sur l'âge de la retraite. Et il faut en même temps, simultanément, mener des politiques de l'emploi qui permettent de prolonger l'activité. Et ça, c'est des politiques du travail, de l'emploi, de la formation tout au long de la vie. En amont, ce n'est pas les plus de 50 ans qu'il faut former, c'est trop tard. C'est tout au long de la vie.
Alors ça, c'est tout ce que vous dites est vrai, et bien sûr, et encore une fois, on en parlera tout à l'heure parce que c'est l'avenir. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise, c'est quand même pas encore tout à fait ça, on est d'accord.
Non.
On en est un peu loin. Comment on pourrait faire pour... Parce que ce que vous nous dites, il va falloir du temps. Il y a un temps d'inertie obligatoire entre les politiques qui seraient éventuellement mises en œuvre, on les évoquera tout à l'heure, et puis la réalité dans les faits, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Comment on pourrait faire changer les mentalités? Comment on pourrait faire évoluer les choses tout de suite, là, rapidement, sans attendre 10, 15, 20 ans? Dit autrement, est-ce que, par exemple, la GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences dans les entreprises, qui existe aujourd'hui, favorise l'emploi et l'employabilité des personnes âgées?
Il y a des démarches en place dans les entreprises pour que les personnes plus âgées connaissent les générations plus jeunes. On parlait tout à l'heure de codir fantôme, ou je ne sais pas quel est le nom exact. C'est-à-dire, on a un codir d'entreprise, en général, tout le monde a plus de 50 ans, et un codir fantôme où les parallèles des membres du codir ont moins de 30 ans. C'est-à-dire, 30 ans et un jour, c'est terminé. Ça provoque des réactions très intéressantes, parce qu'on a à faire un saut de génération, de deux générations quasiment, entre les moins de 30 ans et les plus de 50 ans, qui fait qu'on peut aider à changer l'état d'entreprise. Et ça fait que les plus de 50 ans qui sont dans le codir réagissent par rapport à ces jeunes-là et voient comment fonctionne de leur entreprise, de l'intérieur et de la base. Parce qu'ils l'ont peut-être un petit peu négligé, oublié.
Mais ce mixte de générations que vous dites dans ce type d'entreprise, c'est quel type d'entreprise ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui pratiquent ce codir fantôme.
Non, mais justement, je pense qu'on aborde là aussi le sujet des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, et puis tout le reste des entreprises qui font en fait souvent plus de création de richesses que les très grands du CAC 40. Et on voit bien aujourd'hui que les grands du CAC 40 sont même challengés par toute cette nuée de PME, PMI et de start-up qui, elles, ont décidé en fait de prendre leur avenir en main et de prendre des initiatives. Et de notre point de vue, je dirais la société aujourd'hui de l'entreprise comme on la connaît, elle est challengée aussi parce que elle voit bien la limite des modèles qu'elle a pu mettre en place. Il est vrai, peu facilité par le code du travail qui fondamentalement devra être revisité parce que il faut demain arrêter finalement d'offrir un cadre qui nous limite en termes de prise d'initiative et qui a tendance finalement à enraciner le fameux sacro principe de préserver ce qui existe, de ne pas prendre trop d'initiatives et donc de risques. Ben non, aujourd'hui, la société doit prendre des risques, doit prendre des initiatives et doit se donner de la flexibilité. Sinon, effectivement, ben, on sera complètement dépassé.
Mais ça veut dire quand même que pour répondre à ma question initiale, à laquelle vous n'avez pas répondu, ni les uns ni les autres, il n'y a pas d'initiative immédiate qui permettrait tout de suite de préserver ou d'avoir une meilleure employabilité des personnes âgées dans l'entreprise. Il faudra attendre un petit peu. Il y a encore des mentalités à changer, des choses à faire. Il reste, on va y venir, hein. Il y a plein d'initiatives à mettre en place. Mais aujourd'hui, il se passe quoi dans l'entreprise ?
Oui, mais c'est compliqué ce que vous dites. Et c'est vrai que ce sont les grandes entreprises qui servent de modèle, pas les petites entreprises. Je suis intervenu il y a 15 jours avec des transporteurs qui ont 2, 3, 4 salariés et qui embauchent des gens de 18 ans. C'est pas la guerre, mais c'est tout comme. Dans une grande entreprise, quand on veut préserver ces personnes âgées, on sait qu'il y aura de l'absentéisme. On sait qu'en Allemagne, le taux d'absentéisme est plus élevé qu'en France parce que les populations âgées sont plus nombreuses. Mais on apporte des choses. On modifie l'alimentation au sein des entreprises. On modifie les cadres et les conditions de travail. On modifie les sièges. On modifie les escaliers, les ascenseurs. On modifie le poste de travail. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Ça se fait dans les grosses entreprises et il faut s'en servir comme un éclairage. C'est vrai que le plus grand nombre d'entreprises, alors en pourcentage, sont des PME, c'est évident, mais en nombre d'employés, les grosses entreprises sont très significatives. Et ça sert à quelque chose. Et je vous rejoins aussi sur l'effet start-up. Vous savez qu'on est en train peut-être de rattraper Londres en tant que start-up, en tant que marché des start-up, dans les mois qui viennent. Et ça, c'est quelque chose vraiment de extraordinaire. C'est fondamental à comprendre qu'on est en train de... Avec la French Tech, c'est une réussite fabuleuse. On est en train de dépasser Londres. On a largué les Allemands de ce côté-là. Mais c'est vrai que ce sont des entreprises, quand on les voit en photo, quand on y va les visiter, ils travaillent différemment. C'est tout un état d'esprit, alors qu'ils ne s'occupent pas des structures actuelles et qui inventent quelque chose de nouveau. Mais globalement, quand on a une boîte de 50, 100 personnes... C'est compliqué. C'est tout un état d'esprit à changer.
Alors justement, autour de cet état d'esprit à changer et des initiatives qui pourraient changer cet état d'esprit, est-ce qu'il y a des services aujourd'hui privés, semi-privés, publics, qui accompagnent l'emploi des personnes âgées dans l'entreprise. Est-ce que ça existe, et si oui, lesquels? Je vois que ma question a suscité un grand nombre de réponses.
Alors, oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que Expert Connect est né de cette espèce de gâchis que l'entreprise elle-même générait en finalement laissant partir son savoir sans avoir anticipé tout ça. Aujourd'hui, on accompagne plus de... Alors, ça va peut-être faire bondir certains dans la salle, mais je suis prêt à réagir et à répondre. Mais on accompagne un peu plus de 2000 jeunes retraités actifs qui ont assez mal vécu, finalement, l'effet on-off de vous étiez quelqu'un, vous viviez une passion, et puis, hop, vous faites votre pot de départ, et le lendemain, vous n'êtes plus rien, quoi, en gros. Et donc... Et de la même manière, l'entreprise, on a beau lui dire oh, mais je vais partir dans 6 mois, là, il faut peut-être prévoir un peu les plans de succession, comment je vais transmettre tout ça. Et puis bon, c'est oui, mais reste à fond, on verra ça après. Et en fait, on n'a jamais vraiment trouvé la bonne adéquation entre le moment de préparer tout ça, mais dans un dialogue positif, c'est-à-dire non pas en demandant, mais au fait, quand est-ce que tu vas partir, et ce qui sous-entend que, bon, en gros, je sais pas trop si on va encore avoir besoin de toi longtemps, et puis il y a les jeunes qui poussent derrière,
oui.
À plutôt, ben oui, on sait que tôt ou tard, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas partir, mais on aimerait bien pouvoir capitaliser sur tes 35, 40 ans d'expérience, parce qu'on sait que la génération montante, là, elle en a besoin. Et je peux vous dire, on met à peu près entre 600 et 800 missions en place par an. Toutes contiennent une dose de tutorat, de monitorat, et elles se renforcent de mission en mission, en fait. Pourquoi ? Parce que on s'aperçoit, en fait, que les générations montantes, elles sont hyper demandeuses de savoir. Parce que quand on leur dit, mon vieux, là maintenant, c'est à toi de résoudre le problème, oui d'accord, mais enfin, on m'a pas donné tous les codes, quoi. Et puis, quand il s'agit de réintervenir sur une centrale nucléaire qui a été produite et conçue il y a 35 ans, ou un réseau ferroviaire qui est à maintenir, mais qui fonctionne depuis plus de 50 ans, mais vous n'avez pas tous les codes. Donc, c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur ces expériences. Donc, on a mis en place, et je réponds un peu longuement, j'en suis désolé, tout un système qui va finalement pousser l'entreprise à engager le dialogue. Déjà, engager le dialogue, c'est déjà une initiative.
Et c'est plutôt une initiative privée qu'une initiative publique, en l'occurrence.
C'est plutôt une initiative, effectivement, privée.
Madame Guillemin.
Oui, je voudrais insister dans la ligne de ce que vient de dire mon voisin, sur la question de la coopération des générations au travail. Parce que, particulièrement en France, on a vécu sur l'idée qu'il fallait sortir les vieux pour faire rentrer les jeunes.
C'est un peu ça.
Ça a été une expérience désastreuse, puisqu'on a compris que les emplois n'étaient pas substituables. Et résultat des courses, nous sommes aujourd'hui dans le pays où... Les seniors et les juniors sont en sous-emploi et en difficulté d'emploi. Les fins de carrière, comme les débuts de carrière, sont chaotiques et extrêmement laborieux. Et nous avons des taux d'emploi seniors, on les a un peu améliorés, mais pas après 60 ans, et juniors qui sont extrêmement faibles en France. Alors que la solution, et c'est dans la ligne de ce que vous disiez, c'est justement la coopération des âges au travail. Maintenant, il faut refonder cette coopération des âges au travail qui a été oubliée, laissée aux oubliettes. Et l'expérience, la reconnaissance de l'expérience des seniors doit aller de pair avec, justement, comment on fait travailler les âges, comment on crée du lien entre les âges. Et ce n'est pas n'importe quelle organisation. Et le tutorat ne suffit pas. Là, en France, on a lancé ça dans les plans d'emploi senior.
C'est
totalement insuffisant. C'est reconnaître l'expérience, voir comment on peut la transmettre. C'est la pluralité des âges dans les équipes.
c'est aussi les maintenir suffisamment longtemps ensemble dans des binômes, parce que le tutorat, ça veut peut-être rien dire, pourquoi pas le binôme. Enfin, il y a différentes formes de transmission, et cette transmission suppose avant qu'on ait repéré quelles expériences étaient utiles à transmettre pour l'entreprise. Ce n'est pas évident. La vieille culture d'entreprise, on n'en veut plus. Donc, il faut savoir repérer où elle se transmet, qui la porte.
Mais
c'est elle est souvent tacite.
C'est du devoir de l'entreprise. Ça fait partie de la GPEC, d'ailleurs, hein, que de pouvoir, effectivement, préparer, visualiser, faire la cartographie des métiers et des compétences, voir là où, effectivement, il y aura une attrition, technologique, parce qu'il y a des sauts technologiques qui font qu'il y a des métiers qui vont disparaître, et comment effectivement préparer tout ça. Ça fait partie de l'entreprise. Nous, on a la conviction que aujourd'hui l'entreprise doit accélérer et passer au-delà du simple discours autour de la RSE. Hein. Vous voyez, voilà, on a beaucoup parlé de la RSE, ça fait plein de papiers, etc. En réalité, les vraies actions concrètes, on en dénombre, hein. il y a quand même eu des efforts, il faut le reconnaître. Mais je dirais maintenant, il faut y aller, il faut accélérer.
Pourtant, pour l'économie, alors on l'a vu, pour l'entreprise, c'est intéressant évidemment d'avoir des personnes expérimentées en son sein. Pour l'économie française, pour l'économie en général, c'est plutôt mieux, me semble-t-il, d'avoir des personnes qui travaillent que de payer des retraites, a priori, avec mon esprit candide. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion? C'est en fin de compte mieux d'avoir des gens qui travaillent, parce que d'abord on leur donnera des salaires et c'est plus intéressant que des retraites, et d'autre part parce que ce sont des consommateurs en plus.
C'est évident que ce soit, évidemment, une personne qui travaille cotise et ne touche pas de pension. Donc évidemment qu'en termes de charges publiques, c'est mieux. Après, la question à régler, c'est évidemment qu'il faut qu'elle ait un emploi, sinon on fait un transfert de caisse vide, on demande à Pôle emploi de payer en lieu et place des régimes de retraite. Et d'ailleurs, il faut mettre également un autre intervenant qui est donc les caisses qui gèrent l'invalidité. Il faut savoir que plus les personnes travaillent longtemps, plus le risque d'invalidité augmente. C'est une fonction exponentielle. Cette fonction exponentielle est la plus forte entre 55 et 64 ans. Et d'ailleurs, le report de 60 à 62 ans de l'âge de la retraite a entraîné un surcoût de 2 milliards de dépenses d'invalidité. Donc ça, il faut également prendre en compte. Ce n'est pas simplement une opération facile, moins de cotisants, moins de pensions, que des avantages. Il y a également des surcoûts, hein, pour l'emploi et également validité. Donc on retombe toujours sur la même question, savoir comment on génère de la productivité, de la croissance avec une population un peu plus âgée. Je dirais que sur l'employabilité, il faut voir que le digital va certainement améliorer les choses. Contrairement à ce qu'on croit, ça rapproche évidemment les donneurs d'ordre et ceux qui peuvent travailler. Les plateformes collaboratives sont des plateformes de service. Il est certain qu'un senior a de l'expérience, a en règle générale un peu plus de temps s'il est soit en situation d'emploi à temps partiel, peut proposer des services. Il faut savoir que le cumul emploi-retraite aujourd'hui, c'est 500 000 personnes. 500 000 personnes essentiellement entre 60 et 67 ans. Après, le cumul emploi-retraite n'existe quasiment plus. Il est certain qu'avec le développement des plateformes collaboratives, avec le développement des activités intellectuelles, ce genre de cumul emploi-retraite va fortement s'accentuer dans les prochaines années. Et il faut, à mon avis, l'encourager. Évidemment, il faut permettre des ponts, et c'est peut-être pas forcément dans les formes traditionnelles de l'emploi, le salarié CDI, qu'on va maintenir en activité les seniors. De toute façon, on voit que la société aujourd'hui est en train d'évoluer énormément sur le droit du travail. Et ça concernera évidemment les seniors en tant que tels. On n'a pas vocation à transformer tous les seniors en auto-entrepreneurs. Ce serait certainement socialement pas forcément souhaitable. Néanmoins, il y a des pistes pour revoir les contrats de travail en la matière.
On en parlera également, bien sûr, la refonte éventuelle des droits sociaux et du Code du travail. Mais juste avant, je voulais revenir également sur ces seniors qui travaillent, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ces seniors au travail, ces seniors qui travaillent, c'est un pouvoir d'achat différent. C'est aussi certainement une typologie, madame la sociologue, différente. Est-ce qu'on sait ce qu'ils consomment, ces gens-là? Est-ce qu'ils consomment différemment des autres?
Juste un mot là-dessus. Globalement, le senior d'aujourd'hui se banalise par rapport au consommateur lambda. avant, il y avait une différence extrêmement importante. Le consommateur senior consommait 25% de moins que le consommateur moyen français. Aujourd'hui, l'écart a été réduit à moins de 8%. Le consommateur senior investit plus pour sa maison, plus pour les loisirs, plus en matière de restauration. Il fait un peu moins de sport que le jeune, évidemment. Mais on a aujourd'hui des normes de consommation extrêmement proches. Donc c'est vrai que le senior devient aujourd'hui, mais parce qu'il a un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne nationale, c'est évidemment aujourd'hui quelque chose qui est important, crucial pour les entreprises. Avant, on parlait, entre guillemets, de manière donc un peu simple, de la ménagère de 50 ans. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la ménagère ou plutôt du retraité ou du senior de 55 ans ou de 60 ans.
De la femme responsable des achats dans le ménage. La ménagère de 50 ans, oulala, on n'en parle plus.
Je crois qu'il faut aussi considérer qu'entrer sur le marché du travail, ce n'est pas simplement entrer sur un marché, c'est trouver son épanouissement personnel. Alors que ce soit pour les jeunes, à partir maintenant de 18 ans, mais moi j'en connais qui ont commencé à travailler à 14 ans et qui ont 65 ans aujourd'hui, qui continuent à bosser, qui se portent très bien, que ce soit donc pour les jeunes ou que ce soit pour les plus âgés, c'est cette culture du fait de travailler qui est un épanouissement psychologique qui est très important. Bien sûr, en fin de carrière, il y a des problèmes d'invalidité, sauf que l'invalidité est de temps en temps une pré-retraite cachée.
Hein ?
Il faut aller vers un autre schéma. C'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on parle des fois du salaire universel. Quand vous êtes au Danemark, si vous vous arrêtez de travailler, à quel âge que ce soit, vous recevez l'équivalent de 450 euros par an. Par mois. C'est pas énorme. Ça veut dire que vous pouvez étudier, avoir en même temps un travail à mi-temps et pouvoir fonctionner comme cela. Et c'est quelque chose de courant. Nous, on a organisé la vie, on étudie, on travaille, on prend sa retraite. C'est ce schéma-là qu'il faut absolument faire comprendre, qu'il est cassé, qu'on a besoin d'un épanouissement psychologique. Combien de personnes, en prenant leur retraite, tombent malades? Je prendrai l'exemple que certains connaissent, qui est celui de Roger Coudert, fameux présentateur du rugby. Il a pris sa retraite obligatoire à 65 ans, 66, il est mort.
Concernant ce que vous venez de dire, et principalement sur le fait qu'il faut casser le fameux schéma « on s'instruit, on travaille, on va à la retraite », c'est ça ? Comment on le fait pour casser ce schéma-là ? On est tous d'accord, je crois, et dans la salle, et ceux qui nous écoutent ailleurs, et vous quatre, pour le casser, ce schéma. Mais comment fait-on concrètement pour le casser, et comment surtout fera-t-on pour le casser dans les années qui viennent ? Je vous en prie, madame, prenez votre micro.
Je viens me lancer. Le casser est essentiel parce qu'il faut repenser les parcours de vie tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ils ne sont plus scandés par des âges seuils, les deux seuils qui étaient l'entrée dans la vie active avec l'âge de fin de scolarité et l'âge de la retraite. Et par exemple, en Suède ou en Finlande, il n'y a plus d'âge légal de la retraite. C'est-à-dire que le paramètre de l'âge a été considéré comme n'étant pas le meilleur paramètre pour fixer l'horizon de la retraite.
Et à quel âge
qu'est-ce
on part,
qu'il y a ? Il y a un âge plancher à partir duquel vous pouvez prendre la retraite. Et puis il y a un mécanisme d'incitation à prolonger l'activité. C'est-à-dire que plus vous prolongez, en Finlande, c'est à partir de 55 ans, vous bonifiez vos années de retraite, vos pensions de retraite, en travaillant plus tard. Et on ouvre des choix de vie, c'est-à-dire que tous les individus à 50 ans ne sont plus dans les mêmes situations. Vous avez des gens en parentalité tardive, ils ne vont pas avoir la même stratégie de retraite que des gens qui sont en phénomène de nid vide et ou qui ont eu un travail harassant, fatigant, pénible, etc. Donc il faut ouvrir des choix de vie, il faut faire des retraites à la carte et c'est ce qu'on a fait en Suède ou en Finlande. En France, nous restons sur ce paramètre de l'âge avec les systèmes de retraite scandés par des âges. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, à un même âge de 60 ou 62 ans, les gens sont dans des situations radicalement différentes.
À la lumière de ce que vous dites, c'est quand même, on a l'impression qu'en France, on est dans un pays très, culturellement borné et on ne peut pas sortir de ça.
Oui, ben c'est certain. C'est certain. Je pense que la solution sera certainement d'apporter de la souplesse et de la flexibilité. Et c'est au fur et à mesure d'initiatives qui pourront être introduites dans des groupes qui oseront, hein, qui aussi par un dialogue social, hein, au sein de l'entreprise, avec les partenaires sociaux, puisque c'est quand même éminemment délicat. Enfin, nous, on le vit tous les jours, hein, puisque nos interlocuteurs, c'est des DRH. Hein, et quand on leur dit, mais il faut que vous adressiez ce sujet, il ne faut pas avoir peur de parler de ça, de laisser et d'ouvrir le débat sur ce sujet. Ouh là 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 là, mais alors là, ça va être l'horreur, on va mettre le doigt dans un engrenage,
mais
ça va être
terrible. Mais qu'est-ce qui leur fait peur ? Qu'est-ce qui leur fait peur ?
D'être débordés, en fait. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est au contraire une richesse qui va les amener à mettre en place des actions pilotes. Il y a effectivement une prise de risque, mais aujourd'hui, notre société, elle meurt de son incapacité à prendre du risque. Hein. Le principe de précaution, aujourd'hui, fait que notre pays est à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que on dit, voilà, on prend telle initiative, pouf, on risque d'avoir tel effet boule de neige. Donc, pouf, on ne fait pas. Et on est statique et on est rattrapé par tout un tas d'autres, je dirais, partenaires internationaux, européens, qui disent, OK, la France est un beau pays, mais bon, c'est un luxe qu'elle pouvait prendre, mais qu'elle ne peut plus prendre.
Changer le dialogue social, revoir le modèle qui nous anime depuis
prendre
trop d'années, et prendre des risques. Allez-y, l'un de vous deux voulait réagir.
Une chose très simple, c'est le financement de la retraite. On sait qu'il y a la retraite sécu, on sait qu'il y a la complémentaire, mais on sait qu'il n'y a surtout pas les fonds de pension en France. C'est interdit. C'est un mot que vous ne l'avez pas entendu ces dernières semaines. Pourtant, on est en campagne électorale. Le fonds de pension est un mot banni. Ça s'appelle l'assurance vie. Mais peu importe. Ça veut dire que c'est laissé libre au choix de chacun. Qu'il y en a qui soient cigales ou qui soient fourmis, chacun fait ce qu'il veut. Alors en plus, on menace maintenant de changer l'assurance vie, qu'on puisse pas. Mais c'est de nouveau, c'est un système, vous venez d'en faire l'inventaire, mais c'est un système global et surtout d'assises psychologiques des individus. C'est-à-dire, il faut se sentir bien. On parlait de la naissance tardive. 5% des femmes ont des enfants à plus de 40 ans. Ça change beaucoup de choses. 5%, c'est considérable. Des hommes ont des enfants à 55-60 ans et on se retrouve comme un jeune de 30 ans à la crèche dans ce cas-là. Donc, on a cassé les différentes barrières d'âge. Il faut montrer qu'on a 4 classes d'âge dans les entreprises, qu'on a 3 classes d'âge quand on quitte l'entreprise. Il faut enrichir tout cela et ne pas dire on a 3 classes d'âge qui est j'étudie, je travaille et je prends ma retraite.
C'est ce modèle-là qu'il faut commencer à casser, c'est ce que disait Mme.
Oui.
Juste, je voudrais revenir, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis je vous ai interrompu parce qu'il fallait qu'on en parle plutôt à la fin. Vous parliez de changer également les aspects du code du travail. Il faudrait peut-être revoir le code du travail, parce qu'il y a le dialogue social, celui-là, il peut s'initier en dehors ou dans le code du travail, mais il y a aussi le fait de changer les dispositions légales et réglementaires. C'est un moyen de répondre à la question ?
Chantier évidemment qui est souvent mis en avant. Après, changer le code du travail, c'est, on l'a vu dernièrement avec la loi justement sur le travail d'Alain Gonnery, que c'était très compliqué. Donc évidemment on bute sur le problème du statut, du contrat à durée indéterminée. On voit bien qu'aujourd'hui, si quelqu'un est mis au chômage à 50 ans ou à 55 ans, sa probabilité de retrouver un emploi est faible, et d'autre part la probabilité pour lui de retrouver un emploi en CDI est encore beaucoup plus faible. Donc c'est vrai une fois qu'on tombe du cheval à 50 ans, il est difficile d'y remonter dans les formes traditionnelles de l'emploi. Donc là, c'est toute la réflexion que Gilbert Sette, que Jacques Barthélémy, spécialiste en droit social, donc ont sur la notion de contrat du travail, sur la notion qu'il faut passer sur un droit à l'activité, non plus un droit lié au contrat qu'on a au travail. Mais on voit que c'est extrêmement lent. C'est derrière d'avoir un compte d'activité, hein, sur le fameux compte personnel d'activité, on pourrait agglomérer tous les droits, que ce soit les droits formation, les droits retraite, le droit d'ailleurs à avoir une seconde ou une troisième chance professionnelle. Donc là, c'est un chantier gigantesque. Il n'est pas sûr que les cinq prochaines années, après 2017, y suffiront. Mais c'est vrai qu'il y a toute une évolution à avoir. Des pays qui sont beaucoup plus libéraux, comme le Canada ou les États-Unis, sont assez en avance sur la notion de droit du travail à option. Ça veut dire que quand on est dans l'entreprise, à 30 ans, on a plutôt un objectif famille, logement. Donc, on maximise ses droits logement et famille. Quand on a 50 ans ou 55 ans, on est plutôt à vouloir valoriser à travers de l'épargne supplémentaire ou à travers une couverture maladie, on va dire, à sa situation à 50 ans, 55 ans, pour se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'en France, on a un droit du travail qui est extrêmement rigide. C'est le traitement menu identique pour tout le monde, et c'est de passer à un système qui est beaucoup plus flexible.
Un mot de réaction ?
Oui, une minute simplement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de changements qui s'opéreront par et via les grands patrons d'entreprise. Je prends pour exemple une initiative qu'on a faite en Allemagne, où on a développé tout un accompagnement qui s'appelle Expert Vital pour accompagner les gens à partir de 55 ans pour les maintenir en activité et en performance. Parce que l'Allemagne, elle, a besoin que les salariés restent le plus longtemps possible en entreprise. Ben, ça, aujourd'hui, c'est inconcevable qu'on aille voir les directions de ressources humaines de nos grands comptes, de nos grands clients, en disant vous pouvez peut-être aussi avoir cette préoccupation-là. Et pour autant, ben, l'Allemagne a pris cette initiative parce qu'elle est dans un contexte démographique certes différent, mais on va y arriver aussi. Hein.
Pardon, Madame Guillemard, peut-être une dernière réaction.
Une dernière réaction à propos du droit du travail, droits sociaux. Donc, pour dire que l'allongement de la vie, les transformations des parcours de vie imposent aujourd'hui d'avoir des politiques beaucoup plus préventives que curatives et des interventions multiniveaux. C'est-à-dire aussi bien la soutenabilité du travail, on le voit avec le compte pénibilité. Le compte pénibilité, ça commence au début. Et la soutenabilité du travail est absolument indispensable. Rendre le travail soutenable est indispensable pour allonger la vie de travail. Et aussi pour maintenir la compétitivité des entreprises avec le vieillissement de la main-d'œuvre. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'en France, on n'a pas pris les bons tournants, et ce qui fait que le vieillissement de la main-d'œuvre risque de peser lourdement sur la compétitivité des entreprises. On voit le ralentissement. Alors qu'en Finlande, où ils ont pris le tournant bien avant, les experts finlandais ont calculé que leur attitude, leur comportement à l'égard du vieillissement allait rapporter plus 5% de PIB.
Donc on l'a compris, il y a des exemples à l'étranger qui nous démontrent que ça peut marcher. Il y a des choses à mettre en place dans notre pays. L'emploi des seniors dans l'entreprise est un véritable enjeu pour la silver economy dans les années qui viennent. Les pouvoirs publics doivent s'en saisir, les chefs d'entreprise doivent également s'en saisir, mais aussi il faut changer le modèle peut-être des salariés qui eux aussi voient dans 60 ans l'âge du départ à la retraite. Bref, il y a des choses à faire, vous l'aurez compris. Plein de questions, quelques réponses. J'espère que cette conférence vous aura intéressé. Je vais bien sûr remercier nos invités.